France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Mon fils a eu 8 ans, c'est sûr que dans 4 ans, je serai amenée à ce qu'il me le prenne. C'est quelque chose qui m'effraie en fait, quelque chose d'effrayant pour une maman.
La plupart de ces enfants, ce sont des sacrifiés. Ce n'est pas leur faute, ce sont des sacrifiés de la guerre. Et peu à peu, leur colère grandit.
Bah, la vie en fait ici, elle est dure, hein. Ça se compare pas aussi avec la France. Et nous, on y est pour rien en fait, nous, on était des enfants. C'est nos parents qui nous ont ramenés en fait. Juste envie de sortir d'ici, de ce cauchemar, et de reprendre le cours d'une vie normale, une vie humaine.
Ils ont pris la parole cette semaine pour dénoncer le sort de quelques 120 enfants français détenus dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie. 7 grands-parents, membres du collectif des Familles Unies, ont pu se rendre dans le camp de Roj, où sont retenus les femmes djihadistes et leurs enfants. Ils y ont constaté l'état de santé catastrophique de leurs petits-enfants et réclament en urgence leur rapatriement. Après une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, la France avait organisé le retour de 134 enfants et de leur mère entre juillet 2022 et juillet 2023. Mais ensuite, tout s'est arrêté. Les femmes qui restent n'ont pas accepté le rapatriement, explique l'État français, et elles conservent l'autorité parentale sur leurs enfants. Des enfants qui n'ont rien à se reprocher, mais qui, 5 ans après la chute du califat du groupe État islamique, restent enfermés. Les plus jeunes dans des camps de prisonniers, les adolescents dans des centres dits de réhabilitation, avec pour seule perspective l'incarcération dans des prisons pour adultes. Pourquoi un tel traitement? Pourquoi ces jeunes ne sont-ils pas rapatriés et pris en charge? En Syrie, des adolescents français grandissent en prison. C'est un reportage signé Gaël Joly. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Vous êtes allé donc au Kurdistan syrien, un territoire administré par les Kurdes mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Et vous avez pu rencontrer de jeunes Français. Alors tous ne sont pas en prison à proprement parler, mais c'est tout comme.
Oui, alors dans le camp de Roj par exemple, ce ne sont pas 4 murs comme ça, mais il faut imaginer le désert, des barbelés autour, des zones dans lesquelles sont parquées les familles, les mamans avec leurs enfants, avec des tentes. Ça ressemble plutôt à la jungle de Calais, mais enfermés, et ils vivent là dans des conditions terribles, puisqu'il y a souvent il y a des coupures d'eau, d'électricité, donc l'hiver il fait très très froid, ils dorment avec leurs manteaux, ils se brûlent avec le feu qu'ils mettent dans la tente, et l'été il fait une chaleur étouffante, et il fait presque parfois 50 degrés, 45-50, et ils ont très très chaud, les enfants sont assoiffés, enfin voilà, c'est des conditions terribles.
Nous allons écouter votre reportage avec le pédopsychiatre Jacques Dayan, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes co-chef de pôle au CHU de Rennes, également chercheur à l'INSERM. Et en 2022, vous avez rédigé avec Sylvie Olitreau un rapport sur la prise en charge par l'État français des enfants rapatriés de la zone irako-syrienne. Nous allons donc dans le nord-est de la Syrie, d'abord dans le camp de Roj.
Nous sommes en plein désert. Il fait une chaleur étouffante, plus de 43 degrés aujourd'hui. Et on vient de franchir les portes du camp de Roj, cette prison à ciel ouvert où sont regroupés les femmes et les enfants de djihadistes venus du monde entier, dont à peu près une centaine de Français. Alors, c'est ici que les Kurdes viennent chercher dans les tentes les petits garçons quand ils atteignent l'âge de 12 ans pour les mettre dans des centres de détention. Et on va aller voir ces mères de famille.
Française, non? Farensi? Turkistan? Ok. No Farensi? Non, pas française.
Do you speak Russian?
Russian, no Russia. You're Russian?
Hey. Journaliste?
Journaliste, Safi.
Oh, France?
France, Farensi.
Ah, tu me parles à Khawa?
Elle a un fils? She has a son.
Andek Walat?
Eh. Quel âge? How old?
Kadi Amro.
Ok, little. Okay.
Small.
Yeah, small.
Thank you.
Shukran. Allez, Didier.
Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Vous êtes française?
Oui.
Vous êtes la maman?
Oui.
Vous avez des petits garçons?
J'en ai un.
C'est lui? Est-ce qu'on vous a prévenu de ce qui se passait quand il grandissait?
Oui, je suis au courant. Ça fait pas mal d'années que je suis dans le camp. On les prend au merkez à partir d'un certain âge. Moi, j'étais un peu dans tous les camps. Donc, je sais, j'en ai vu. J'ai vu bien des garçons partir, mais bon.
On vous a dit pourquoi ils partaient?
parce qu'ils avaient atteint un âge où le camp, c'est pas leur place.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'ils les prennent ?
Ouais.
Moi, je suis contre. Les enfants, ça doit rester avec leur mère. Déjà qu'ils ne sont pas bien. Et c'est pas un endroit pour les enfants, mais...
Et vous voulez rentrer ?
Où ça ? En France ?
Ouais.
Non.
Non, vous voulez aller où ?
Moi, j'ai deux nationalités. Algérienne et française. La France est venue à moi pour me demander si je voulais rentrer. Non, ça ne m'intéresse pas.
Vous voulez aller en Algérie ?
Oui. Oui, pourquoi pas ? C'est plus dans mes projets que
d'aller
la France.
En France. Oui. Ok, et du coup, si votre enfant grandit ici, c'est vrai que... Non, c'est quoi la suite ?
Il reste quand même pas mal d'années. Je pense que les choses vont changer. Il y aura sûrement des rapatriements. Les choses évoluent.
Merci. Ok. Française ? Non ? Vous n'êtes pas française ? Merci. Là, à l'ombre.
Alors, c'est pour quel journal ?
Alors, moi, c'est la radio française.
Ah ben, quelle...
Radio France.
Ok.
Vous êtes maman d'un enfant de
8 ans. Voilà, je suis maman de deux enfants. Mon fils a 8 ans. C'est sûr que dans 4 ans, s'il y a encore les camps, je serai amenée à ce qu'ils me le prennent. Donc, c'est quelque chose qui m'effraie, en fait. Quelque chose d'effrayant pour une maman. Et en fait, je veux juste savoir, moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? De prendre des enfants, de les arracher de leur mère. Pourquoi ils le font ? C'est illégal.
Vous avez des amis à qui c'est arrivé ?
Oui, plusieurs voisins en fait, ici dans le camp, qu'ils ont des enfants au Marquez.
Et comment ça se passe en gros ? On vient le chercher ?
Oui, en fait, ils ont fait des opérations spéciales. Ils viennent, ils prennent les grands garçons. Et après, pas de nouvelles.
Voilà. Et ça, c'est une menace qu'ont toutes les mamans ici, c'est-à-dire
C'est ça qu'ils ont des grands enfants.
Il est où, votre fils, grands... à vous ?
Oui, il est là, c'est ce petit-là.
Il est
cette
encore
petite plus... chose-là.
Toi, tu parles français ? Mais t'as pas envie.
Un petit peu, ouais. Oh, je ne sais pas c'est quoi l'avenir, mais j'espère juste qu'on sera sortis d'ici là, avant que mon fils grandisse. C'est vraiment une frayeur de tous les jours.
Et on vous a expliqué pourquoi on fait ça ?
Non. Non, non.
Pourquoi séparer les jeunes garçons de leur mère ? Cette question, nous allons la poser à Rachid Omar, le directeur du camp de Roge. Il nous reçoit dans son bureau à l'entrée de la prison. Selon lui, il faut protéger les adolescents de l'emprise de leur mère.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de familles vivent dans ce camp ?
On a ouvert le camp en 2015. On a exactement 745 familles de djihadistes venues du monde entier. Ça représente 762 femmes et 1148 enfants.
Pourquoi est-ce que vous séparez les mères de ces garçons ?
D'abord à cause des relations sexuelles que ça induit. Mais ce n'est pas la seule raison. Vous savez, ces jeunes, ils s'entraînent à devenir des djihadistes à l'intérieur du camp. Leur propre mère leur enseigne l'idéologie de l'organisation État islamique. Le vendredi, ils organisent des classes de religion où ils prient. Ils ont des discours religieux très extrémistes et ne parlent que de djihad. Tenez, par exemple, il y a des femmes qui enlèvent leur niqab, et bien ces gamins, ils les menacent pour qu'elles le remettent. Parfois même, ils brûlent leur tente. Quand ces femmes vont au marché, s'ils voient qu'elles enlèvent leur niqab, ils les forcent à le remettre ou leur demandent de partir. Elles ont peur et elles rentrent se cacher dans leur tente.
Et comment vous les sortez d'ici, ces enfants de 12 ans ?
Comment fonctionne la procédure ? On a des ONG ici, on explique la situation d'un de ces garçons, par exemple. Les ONG sont au courant, on appelle les mères, on leur demande de préparer les affaires de leur fils. Et si la famille refuse, alors on utilise d'autres moyens, plus musclés, avec les forces de sécurité pour les emmener au centre de détention. Et parfois, ce sont même des familles qui nous préviennent. Je vous le disais, certaines femmes se plaignent parce que ces gamins veulent avoir des relations sexuelles avec elles. Alors bien sûr, quand les enfants sont blessés ou handicapés, il y en a un à qui il manque une jambe, eux, ils restent avec leur mère. Mais s'ils sont en bonne santé, oui, on les envoie dans les centres.
Thank you.
On est en train d'arriver au centre d'Orkesh, centre de réhabilitation, où se trouvent des jeunes, des enfants, des garçons, fils de djihadistes, âgés de 12 à 22 ans.
C'est à lui, elle vient.
Ok.
Space.
What?
We'll go by the car. Because normally they don't let the journalists to go by the cars. Okay, he's opened the door. Now we are going inside the
station. On dirait que tous les détenus sont à l'intérieur. Ils sont enfermés 16 heures sur 24. Il y a un terrain de foot au milieu, mais il n'y a personne dessus. Une grande cour et des bâtiments autour où sont les cellules. Les gardes nous conduisent dans une chambre avec 5 lits. Au sol, du carrelage blanc, rien d'autre, juste quelques dessins sur les murs. La tour Eiffel dessinée au crayon à papier et ce message « Mon pays, je t'aime, quand vas-tu me sauver ?» Youssef est le premier à venir nous parler. Il va très mal, il a besoin d'être soigné. Ces derniers mois, il multiplie les crises d'épilepsie.
Moi, je m'appelle Youssef. Moi, je suis né en France, à Strasbourg, mais je suis d'origine algérienne. Mon âge, je suis né en 2005.
Donc, ça veut dire que vous avez 19 ans ?
Ouais, à peu près, je pense. Moi, je suis venu ici en Syrie à peu près 10 ans, 10 ans, 11 ans. Et je suis venu petit avec ma famille, pareil. Mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs. De ce centre ici, ça fait à peu près un an et demi, je suis là. Que dans ce centre, c'est tout.
Et avant ?
Avant, j'ai passé beaucoup de prison. J'étais beaucoup en prison. Ils m'ont mis en prison beaucoup.
Et vous étiez enfant ?
Ouais, ça fait à peu près 4 ans qu'ils m'ont attrapé, qu'ils m'ont pris du camp. J'étais au camp, moi, avec ma famille, avec ma mère. Et ils m'ont pris de là-bas. J'ai déjà ma tête, elle est cassée. Mon crâne, il est cassé. Mon crâne derrière, il est cassé. J'ai un gros problème dans la mémoire. Ma mémoire, en fait, j'oublie beaucoup, moi. Elle est cassée. J'ai beaucoup de débris dans mon corps. Ma main, elle marche pas. Déjà, j'ai ma main, elle est cassée, elle marche pas. Elle est morte. Le nerf, il a été tapé dans la gorge. J'ai beaucoup de débris dans mon corps.
À cause de quoi ?
L'avion, je sais pas, j'ai été tapé par l'avion.
Oui, vous avez été blessé à Barousse, c'est ça ?
Ouais, à Barousse, oui.
J'ai envie de vous demander aujourd'hui, comment vous vous sentez ?
Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup triste. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de la vie, en fait. Ça fait combien de temps ? J'ai juste envie qu'ils me ramènent chez ma famille, chez ma mère. Je sais pas. Ils ont dit qu'ils ont pris ma mère, elle est en France maintenant. Ils l'ont pris, ça fait très longtemps. Ma famille, ils sont tous partis en France. Tous mes frères, ils sont morts et j'ai quelques sœurs encore. Ils sont encore vivants, ils sont repartis avec ma mère.
Donc il reste plus que vous, en fait ?
Oui. Moi, je suis ici encore tout seul.
Vous savez pourquoi ?
Bah, je sais pas pourquoi. J'attends à chaque fois, je parle avec ici, avec le responsable, avec le chef. Je sais pas, il me dit qu'il faut attendre encore. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, en fait. Je comprends rien.
Parce que vous êtes un garçon ?
La vérité, je sais pas du tout.
Quand vous étiez petit, on vous voit dans une vidéo que la France a vue, où vous avez une arme à la main, etc.
Je me rappelle cette vidéo.
Qui vous a mis devant cette caméra avec cette arme, si petit ?
Je sais pas, c'était des hommes en fait. Ils filmaient comme ça, ils voyaient des petits, ils leur donnaient des armes et ils disaient de parler avec une arme comme ça. Je sais pas.
Vous êtes fatigué, hein ?
Je suis très fatigué, pas fatigué. J'en ai marre.
Et vous en voulez à vos parents ?
Ça c'est sûr, ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? J'en veux pas. Ça c'est sûr.
Vous leur en voulez beaucoup ?
Je sais pas, j'arrive pas trop en fait, parce que c'est mes parents aussi. J'aimerais juste en fait dégager d'ici, c'est tout. J'aimerais plus rester ici une seconde. Moi j'en ai marre. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est juste dégager d'ici et c'est tout.
Bonjour Elias. Sur le lit, assis à côté de lui, Ilias hoche la tête, visage juvénile derrière ses lunettes. Il passe ses journées allongé sur son lit à réfléchir.
Je m'appelle Ilias, j'ai 19 ans à peu près. Je suis né en France à Bastia, en Corse. Je suis resté que 2 ans en Corse et le reste c'est en France, la ville du Mans.
Vous êtes allé à l'école au Mans ?
Oui.
Jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à 10 ans à peu près, un truc comme ça. J'avais 2 copains, je faisais tout le temps mes anniversaires. En fait, c'est comme n'importe qui en fait en France, comme n'importe quel enfant. Je partais à l'école, on jouait au football. Comme tout le monde, en fait. J'avais une vie normale. Mais pas comme la vie ici, en fait. Pas du tout.
Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous étiez au Mans et vos parents vous ont emmené ici ?
Mon père, il a pris toute notre famille là-bas. Du Mans, il nous a pris en Turquie. c'est là où tout a commencé à changer en fait. Et de Turquie, il nous a fait entrer en Syrie.
Vous vous souvenez de votre arrivée dans ce pays en guerre ?
Oui. C'était le choc en fait. J'étais pas du tout habitué moi aussi. J'étais avec ma famille, je restais à la maison, je sortais pas beaucoup dehors. Au début, on était à Raqqa. De Raqqa, on a déménagé à Medine. Medine, on a déplacé à un endroit qui s'appelle Jazira. Là-bas, on est resté jusqu'à ce qu'on a pu s'enfuir à la fin. Et du début de Baghouz, comme ça. Quand on est sorti de Baghouz, on est parti dans le camp à Lol. Moi, je suis resté là-bas avec ma famille jusqu'à ce qu'ils m'ont pris de là-bas.
Il y a des policiers qui sont venus vous chercher, c'est ça ?
Des militaires. Okay, plein de militaires qui sont venus, ils font sortir les femmes et les enfants dans un endroit où il y a plein de grandes tentes. Et de là-bas, ils trient les jeunes, des mères et des petits. Les mettre de côté, après de là-bas, ils te prennent en prison. La séparation, c'est pas facile. Et ma famille aussi, ils n'étaient pas aussi préparés à ça, et moi non plus. En fait. Je ne suis pas habitué, moi, à me séparer de ma famille, en fait.
Votre mère, vous lui en voulez ?
Pour moi, ce n'est pas elle qui est responsable, en fait. C'est mon père qui est responsable. Parce que ma mère, elle était faible, et même à ce moment-là, en fait, elle ne pouvait pas prendre de choix. Tout était entre les mains de mon père, en fait, à ce moment-là.
Est-ce que vous pouvez décrire pour les Français, c'est quoi la vie ici ?
La vie en fait ici elle est dure, hein. Ça se compare pas aussi avec la France. La moitié de la journée on est enfermé et le reste, des fois plus que la moitié, des fois juste un quart de la journée on est dehors, des fois la moitié par rapport en fait. Ils ont pas de programme en fait ici, on est stable. Et chaque jour ils changent le programme en fait.
Ils disent qu'ils ont un programme de déradicalisation, que vous prenez des cours d'arabe, d'anglais, des cours de sport, que vous pouvez appeler vos mamans deux fois. Par mois, par téléphone, est-ce que c'est vrai tout ça ?
Non, deux fois par mois, c'est pas vrai ça. Tous les deux mois, trois mois, on appelle, non ? Et quoi d'autre ? Non, les cours, oui, on prend des cours. Ça, c'est vrai ça. On prend des cours, il y a comme une espèce d'organisation qui vient ici, nous donne des cours. Mais c'est pas comme les cours en France aussi. Hein. C'est comme pour des cours de la maternelle, on peut dire à peu près, ou là, un peu du CP, CE1, un truc comme ça.
C'est mais des ça, femmes qui vous donnent les cours, hein,
c'est ouais, ça ? Il y a des femmes, il y a des hommes, en fait, ouais.
Ça vous dérange pas ?
Non, on n'a aucun problème. C'est normal.
Est-ce que vous passez du temps dans votre lit,
ouais. Moi, ouais. À réfléchir quand je veux sortir. Moralement, c'est notre morale, il est cassé, en fait. Notre morale, petit à petit, il s'affaiblit, en fait. C'est comme une batterie, en fait, et il n'y a rien qui la recharge. Petit à petit, à la fin, on va se finir. Et nous, on a du mal aussi à supporter, en fait, la situation. Des années et des années qu'on est en train d'attendre et il n'y a rien qui bouge. On peut attendre 2 ans, 3 ans, mais pas 4 ans, 5 ans, 6 ans. Notre jeunesse est en train de partir, en fait. C'est ça, le problème. De 10 ans jusqu'à maintenant 19 ans, les 9 ans là, qui sont partis, ça ne va pas retourner, en fait. Ça ne va pas revenir. C'est ça, le problème. J'espère moi, maintenant qu'après mes 19 ans, le reste, je vais le finir en France. Il ne faut pas qu'on ait jusqu'à 21, 22, 23, 24.
Est-ce que vous auriez imaginé cette enfance-là ?
Non, je ne l'avais jamais imaginé. En fait, quand j'étais en France, j'avais jamais imaginé que j'allais finir mon enfance en fait, dans un pays en guerre et pauvre et être séparé de ma famille aussi.
Ça, c'est dur pour vous.
Ouais, c'est très dur. C'est imaginable, en fait. Et à ce moment-là, je ne l'imaginais jamais, ça.
Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ?
J'ai envie de dire aux Français en fait, qu'ils essaient de se mettre un peu à notre place, tu vois, d'essayer de s'imaginer en fait, dans quel cas on est, nous, en fait. Comment est notre situation et d'essayer de nous aider, en fait. De parler pour qu'on essaie de revenir. Et nous, on y est pour rien, en fait, aussi. Je vois pas, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en fait. Nous, on y est pour rien, en fait. Nous, on était des enfants. Et c'est pas nous qu'on n'a pas de responsabilité, nous, en fait. C'est nos parents qui nous ont ramenés, en fait. Nous, on y est pour rien. On y est pour rien, nous. On a pas de choix. On peut pas prendre l'avion de tout seul et venir en Syrie. On comprenait que dalle, en fait.
Ils ont peur de vous parce qu'ils ont peur que vous soyez radicalisé, que vous ayez combattu et que vous veniez en France pour commettre des attentats.
Non, c'est comme ça, ils sont en erreur, en fait. Il n'y a rien de ça, en fait, dans notre tête, en fait. On veut juste retourner, même si je dois partir en prison en France, je m'en fiche, moi. Je dois rester des années et des années dans un centre de déradicalisation, là, de rester dans un centre de détention, j'ai aucun problème. Du moment que moi, je sors de Syrie, j'ai aucun problème. Juste envie de sortir d'ici, de ce cauchemar, et de reprendre le cours d'une vie normale, une vie humaine. Ici, on se sent comme ça, dans un zooparc, en fait. Dans un endroit où tu mets des animaux, tu les enfermes.
Nous avons pu visiter un autre centre de réhabilitation, le centre Houri, à une centaine de kilomètres vers la frontière avec l'Irak.
Pour survivre, un jeune Français a appris tout seul, dans sa cellule, à jouer du piano.
Ici.
Ici.
Ça fait 8 mois, je crois, j'apprends.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez, d'où vous venez et quel âge vous avez?
Ouais, j'ai 18 ans. Je m'appelle Le Piev Asadullah.
Comment?
Le Piev Asadullah. Ouais, je suis un Français, origine de Tchétchène.
Ouais. Comment ça s'écrit votre prénom?
L-E-P-I-E-V, Le Piev.
Le Piev. Ça, c'est votre nom de famille?
Ouais, nom de famille.
Et votre prénom, ça s'écrit comment?
Asadullah. A-S-A-D-U-L-L-A-H.
Asadullah?
Ouais.
Ok. Et donc, vous venez de Paris? Vous
ouais.
Vous venez d'où à Paris?
Bretigny-sur-Orge.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ouais, mon père a pris une mauvaise décision. Ouais, il m'a ramené ici.
Et vous êtes arrivé ici à quel âge?
9 ans.
Vous êtes venu rejoindre les rangs de Daesh avec votre père?
Ouais, et mes deux grands frères. Ouais, quand ça a commencé à avoir trop de batailles là-bas, il est resté, il nous a envoyé à Raqqa, il est mort là-bas.
Lui, il est mort?
Ouais.
Et votre mère?
Elle est en France. Ils étaient divorcés depuis longtemps. Ouais, je parlais avec elle avant quelques années, jusqu'à ce qu'ils ont interdit.
Et vous, qu'est-ce que vous êtes devenu?
Je me suis rendu. Mes frères n'étaient pas avec moi.
Vous êtes rendu aux Kurdes?
Aux Kurdes, ouais.
Et où est-ce que vous êtes allé?
Ici, direct.
En prison?
En prison quelques jours. On a changé de prison. Ouais, jusqu'à ce que je suis venu ici.
Et là, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce centre à Ouri?
Plus que 6 ans.
Vous aviez 12 ans quand vous êtes arrivé?
Ouais.
Vous étiez tout petit?
Ouais. Je croyais que j'allais retourner en France. Je pensais qu'à ma mère, j'avais tout oublié. Comme si que j'avais ni de père ni de frère, tu vois. Tu vois, des sentiments bizarres.
Et comment vous vous sentez?
Il va venir ce jour où je vais retourner en pays.
En France?
Ouais, en France. C'est bon, je mets dans ma tête, cette année je vais sortir. Chaque année je me dis comme ça, cette année c'est bon, c'est le dernier. Ouais, c'est comme ça que je vis. C'est ça l'espoir. Un mensonge que tu restes à répéter pour pouvoir continuer. Ouais, c'est ça l'espoir, tu vois.
Vous en avez encore?
Mais bien sûr.
Moi, j'essaie de savoir ce que vous avez dans le cœur.
Dans le cœur? Je sais pas, j'ai mon enfance dedans. Ouais. Il y a ma famille aussi, ma mère, mes sœurs, mes frères aussi qui sont morts.
Et c'est pour ça que vous avez appris le piano?
Ouais, ça m'aide, tu vois. Tout le monde aime écouter des musiques, tu vois, mais c'est différent quand c'est toi qui les joues. Mais le plus que j'aime, c'est Chopin. Frédéric Chopin. Ouais.
Vous savez jouer quoi de Chopin?
Ah, il est trop rapide.
J'y arrivais pas?
Il y a une, j'ai commencé à l'apprendre, mais je ne l'ai pas toujours fini.
Vous montrez?
Ouais, mais il est pas bien. Je ne l'ai pas terminé. C'est pas un souvenir.
La musique?
Bien sûr, c'est ce qui me plaît, tu vois. C'est bien de trouver quelque chose que t'aimes à faire. Ouais.
Vous perdez votre français au fur et à mesure?
Ah ouais, trop. Je suis seul ici, tu vois, français. Ouais, c'est dur à garder la langue et l'accent.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Bretigny-sur-Orge?
Bah, je me souviens comment mon père me tapait chaque jour. J'ai pas trop de bons souvenirs là-bas.
Vous alliez à l'école?
Ouais, à Jean Moulin.
Vous aviez des copains?
Ouais, ils étaient deux, les préférés. Un il s'appelait Noah, l'autre Exaucé. Ils étaient des Africains.
Vous avez appris à faire du vélo?
Ouais, le vélo, bien sûr. J'apprenais le skateboard. J'avais fait un mois là-bas, après, mon père n'a pas aimé ce truc et ne m'a pas laissé continuer.
Vous aimeriez rentrer en France ?
Bah, bien sûr, c'est mon rêve ça. C'est ce que j'attends depuis longtemps, depuis presque 10 ans.
Vous savez, les Français ont peur de voir rentrer les garçons ?
Je vois pas comme ça. Il y en a trop qui sont sortis, tu vois. Et c'est quoi la différence si moi je reviens ou eux ? On est tous les mêmes, tu vois. Et moi aussi je suis un humain. Je crois pas que je vais faire quelque chose contre mon pays, tu vois.
Vous voulez juste revoir votre maman ?
Je veux revoir ma vie, tu vois. Je veux ma vie, je veux la vivre. Je veux mon pays, je veux ma mère, mes sœurs.
Est-ce qu'on referait pas une dernière chanson ? C'est tellement beau.
Ok.
Vous en avez une sous la main ?
Ouais, j'en ai.
Pour le directeur du camp de détention de Roj, Rachid Omar, ces garçons sont avant tout des victimes et il faut les sortir de là.
La plupart de ces enfants, ce sont des sacrifiés. Ce n'est pas leur faute, ce sont des sacrifiés de la guerre. Et peu à peu, leur colère grandit. Leur mère leur pourrit la tête avec l'idéologie de Daesh. Ils se lèvent à 4 heures du matin pour prier et jusqu'au soir, ils sont obnubilés par Daesh. Alors oui, c'est vrai que nous les prenons pour les mettre dans les centres de déradicalisation. Et on a besoin de beaucoup d'autres centres comme Orkesh ou Uri, parce que ces garçons grandissent et qu'ils sont de plus en plus nombreux. Des associations travaillent dans ces centres, leur donnent des cours pour essayer de changer leur état d'esprit. Avant d'arriver dans le centre, beaucoup de ces gamins refusaient de regarder les femmes dans les yeux, mais maintenant ils le font. Ils parlent avec nos collègues femmes, ils discutent avec elles, ils ont évolué. Mais il faut trouver une solution parce que quand ils dépassent les 18, 19, 20 ans, le centre ne peut plus les garder et si après ils se retrouvent en prison, ce n'est pas une solution. Il faut mettre en place une cour internationale pour pouvoir les juger.
Ces jeunes garçons, quand ils atteignent la majorité, ils sont envoyés dans des prisons kurdes. Amnesty International y a récemment dénoncé des tortures et des mauvais traitements. J'avais demandé à voir un détenu français, mais selon les Kurdes, le Quai d'Orsay s'y oppose. On va pouvoir rencontrer un ressortissant suisse. Les autorités viennent de nous appeler. On a rendez-vous près de la prison d'Asaké. C'est une prison qui détient plus de 5000 djihadistes, dont 500 étrangers. Et pour tout vous dire, j'ai signé un papier qui dit que je n'ai pas le droit de lui parler de ses conditions de détention, mais on va quand même le faire, puisque dans cette petite pièce où je dois le rencontrer, seul lui et moi parlons français, même si on est sous surveillance kurde. Donc là, on arrive dans un endroit tenu secret. La porte s'ouvre et le djihadiste apparaît entre deux militaires dans une combinaison de prisonniers marrons. Visiblement dénutri, il a perdu plus de 30 kilos. Une cagoule noire sur la tête, les mains attachées dans le dos, il s'assoit. Il tient à s'exprimer. Notre interview est filmée par les services de renseignement kurdes.
Moi, je m'appelle Aydin. Je suis d'origine bosniaque, mais je viens de Suisse. J'ai 30 ans. Ben, ça va faire, après là maintenant, ça fait 6 ans... 6 mois, je suis en prison parce que j'ai rejoint le groupe Daesh en Syrie en 2015. Et je me suis fait attraper en 2018, 1er janvier 2018. Et depuis, bah, je suis en prison ici en Syrie.
Et vous êtes venu ici pour quoi ?
Parce qu'à ce moment-là, ça faisait 2 ans que je m'étais converti. Voilà, je voulais émigrer là-bas pour vivre avec le rite islamique.
Comment vous vous sentez aujourd'hui ?
C'est pas une prison comme les autres prisons, vous savez, par exemple en Europe. C'est une prison où, franchement, il y a que des punitions, vous torture, vous frappe, beaucoup de matraques, tuyaux, câbles. Je vous avais, les gens, ils meurent. Je pense que c'est la première fois que je vois autant de gens mourir en prison. Les gens, ils sont malades. Ils disent que c'est tuberculose, mais j'ai aucune idée, parce que je connais pas en fait les symptômes de tuberculose. Et moi, aujourd'hui, ils meurent, ils ont de la fièvre. Il y en a qui meurent de dépression. ils sont comment dire, tristes, tout ça.
Ils se meurent.
Ouais, ils se laissent mourir. Ouais, ils se laissent mourir. Ouais. Okay. Il y a tout qui est interdit en fait ici. S'asseoir à deux, discuter pour s'asseoir à deux, c'est interdit. Dormir, c'est interdit. Seulement à partir au moment où eux ils disent de venir mettre les matelas, on peut dormir. Il n'y a pas de. En fait, l'intuition, elle est mauvaise. C'est tout fait pour que vous soyez faible physiquement. Vous n'avez pas d'énergie. La lumière, c'est 24/24. Il fait chaud, il fait froid. Ça fait 5 ans, il n'y a pas de brosse à dents. 5 ans, il n'y a pas de shampoing. De vêtements, là, les vêtements que je porte, ce ne sont pas les miens. Ils m'ont donné pour cette interview. Mais à la base, j'ai des vêtements, les mains sont déchirées, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc, tout le monde se fait torturer ici. Tous les prisonniers se font torturer. Il n'y a pas de. J'ai pas entendu un qui ne s'est pas fait torturer. Au début, c'est dur. Après, vous êtes obligé de vous y faire, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas le choix, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais si vous défendez, vous mettez une balle. Ils nous ont mis dans cette prison pour nous faire mourir à petit feu.
Vous trouvez normal d'être là ou qu'est-ce que vous aimeriez en fait
Ça ne m'étonne pas ce qu'ils font aujourd'hui de nous. Hein. On est prisonniers de guerre. La majorité des combattants, donc c'est pas des.
Comme vous par exemple.
Peut-être comme vous. Et puis, voilà, donc je comprends. Hein. Déjà, derrière ce qu'ils ont fait, donc eux ce qu'ils nous font. C'est sûr que les gens disent ouais, ils ont que ce qu'ils méritent. Donc. C'est vrai, je me plains à personne, je ne vais pas me plaindre de ma situation, parce que moi je l'accepte. Ce que j'ai fait, c'est. Je suis venu dans Daesh. C'est sûr qu'ils m'ont capturé maintenant. Ce qui m'arrive, c'est normal.
Mais vous aimeriez être jugé?
Pour moi, c'est comme si j'étais jugé ici en fait. Au début, vous savez, vous espérez un peu. Après qu'on voyait les années passent, après vous juste vous vivez votre vie, votre routine tous les jours. Vous attendez, mais vous ne savez pas ce que vous attendez. Vous savez peut-être que vous allez mourir ou peut-être que vous allez sortir. Ouais.
Face aux accusations de ce prisonnier et de l'ONG Amnesty International, qui a publié un rapport de plus de 200 pages, nous avons posé la question aux autorités kurdes. Siamand Ali, le porte-parole des unités de protection du peuple, dément fermement.
À propos du rapport sur les tortures, je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai. Et nous avons informé Amnesty International par un communiqué que c'était faux. Nous appelons toutes les ONG à venir contrôler ce qui se passe dans nos prisons. Et nous, les forces démocratiques kurdes, acceptons toute aide internationale pour nous aider à protéger et gérer nos prisons. Nous essayons d'aider ces prisonniers, alors même qu'ils sont des terroristes. Jusqu'à présent, nous traitons ces prisonniers selon des règles éthiques. Mais le problème vient de la communauté internationale et des ONG qui n'ont jusqu'à présent jamais aidé les forces démocratiques kurdes avec ces détenus.
Vous gérez deux immenses camps et une vingtaine de prisons. Ça représente plus de 50 000 djihadistes, hommes, femmes et enfants. Qu'est-ce que vous attendez, entre autres, des pays occidentaux ?
D'abord, ces prisons et ces camps représentent un énorme fardeau pour nos forces et pour l'administration autonome. Pendant des années, il n'y a eu aucun geste de la communauté internationale pour résoudre la question des détenus et de ceux qui se trouvent dans les camps. Aucune mesure n'a été prise. Mais nous réclamons toujours de l'aide à la communauté internationale, en particulier aux pays européens. Soit ils rapatrient ses mères, leurs enfants et les détenus, soit il faut nous aider à mettre en place des tribunaux internationaux dans le nord-est de la Syrie pour pouvoir juger ces terroristes.
En 2022, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion des rapatriements. Quelques mois plus tard, le Comité onusien des droits de l'enfant et le Comité contre la torture de l'ONU ont fait de même. qu'en pensent les magistrats français. Il faut s'abriter derrière le droit, estime le juge antiterroriste David Benichou, que nous retrouvons à notre retour à Paris. Ces prisonniers qui sont détenus en Syrie, est-ce qu'ils ont vocation à rentrer en France ?
Alors il y a une question qui se pose, c'est celle tout d'abord du droit, de la nationalité. Et ça, c'est, c'est un repère bien commode, parce qu'on n'a pas de questions politiques ou de choix à faire. Il n'y a pas de raison de refuser le retour sur le territoire d'un ressortissant qui a la nationalité de ce territoire. Après, la question qui se pose, c'est l'opportunité d'organiser ce retour et de l'accompagner. Donc là, on est plus dans une décision qui peut être d'ordre administratif, politique, mais en droit, il n'y a pas de raison de refuser le retour sur le territoire d'une personne qui en a sa nationalité.
Et un ancien magistrat antiterroriste, qu'est-ce qu'il se dit face à ces djihadistes ? Ils doivent rester là-bas ou ils doivent rentrer ?
En fait, il faut distinguer suivant les cas. Il y a les individus qui ont rejoint en connaissance de cause un Daesh pour des raisons bien particulières. Ceux-là, lorsqu'ils sont de retour sur le territoire, ils ont vocation à être judiciarisés. Il y a une autre question qui se pose, c'est par rapport aux mineurs qui ont été emmenés de force ou qui sont nés là-bas, donc qui ne sont pas auteurs d'une quelconque infraction. Donc ces mineurs-là, au cas où ils rentreraient sur le territoire, n'ont pas vocation à être judiciarisés autrement que par l'assistance éducative, c'est-à-dire pour s'assurer qu'ils soient extraits d'un milieu qui les met en danger et qui pourrait les transformer eux-mêmes en danger pour la société.
Mais dans tous les cas, c'est quand même faire revenir un danger sur notre territoire.
Absolument, mais là encore, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Parce qu'après, il faut être capable d'en assumer les conséquences. Faire prévaloir le droit, on est quand même un état de droit, et c'est important, c'est un repère très important, c'est assurer le retour de ces individus sur le territoire. Ensuite, il faut mettre les moyens pour s'assurer que ces individus qui ont un profil qui peut présenter des caractères de dangerosité, cette dangerosité, qu'elle soit ramenée à un niveau le plus faible possible. Donc là, après, on rentre dans un niveau pratique qui est beaucoup plus difficile, c'est celui de l'appréciation du risque, des multiples facteurs. Et je dirais que d'un autre côté, on a déjà sur notre territoire des individus qui n'ont jamais quitté le territoire, qui rêvent que d'une chose, c'est de commettre un attentat. Et on peut aussi avoir un mineur qui est né en Syrie ou qui a grandi là-bas, qui lui n'a qu'une envie, c'est de venir revenir en Europe pour avoir une vie normale et avoir un comportement exemplaire. Et là, bien heureux celui qui serait capable de dire qui est qui, puisque la vie est quand même assez complexe. Et c'est très, très... C'est impossible de savoir qui prendra quelle trajectoire. Donc je dirais, dans des situations aussi complexes que celle-ci, heureusement, le droit est une sorte de repère qui nous est à tous commun. Et si on combat le terrorisme avec les moyens du droit, c'est bien pour appliquer les règles de l'état de droit.
Est-ce que la France est capable de prendre en charge ces gens-là ?
La France est un pays qui a d'immenses capacités, mais qui a aussi des services publics qui sont en grande souffrance. Donc je ne peux pas vous répondre. Après, c'est clair qu'il faut mettre des ressources. Ça suppose de l'accompagnement humain, beaucoup d'humains. Donc ça demande des ressources. Oui.
Les Kurdes souhaiteraient pouvoir juger ces gens-là. Est-ce qu'ils peuvent le faire ?
Alors là encore, juridiquement... On peut juger, évidemment, qu'on va parler des personnes qui ont rejoint Daesh. Après, les Kurdes, c'est une question un peu compliquée, parce que les Kurdes s'inscrivent dans un État où ils ne représentent pas une autorité souveraine. Donc juridiquement, c'est une question très intéressante à traiter. On peut se poser la question, par exemple, de la création d'une juridiction internationale ad hoc pour traiter judiciairement tous ces cas en respectant les standards qui nous sont tous communs de respect des droits et de la justice. Il n'y a pas meilleur moyen que la justice pour traiter ce genre de solution. De toute façon, il y a soit la force, soit la justice. La force étant déjà passée, il reste la justice.
Thank you. Et bien sûr, Assadoula, jeune amoureux de Chopin et de Beethoven, rencontré au centre d'Ori que vous entendez de nouveau au piano. En Syrie, des adolescents français grandissent en prison. C'était un reportage de Gaël Joly avec l'aide de Mohamed Hassan et avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour commenter et prolonger ce reportage, nous sommes avec le pédopsychiatre Jacques Dayan, co-auteur d'un rapport sur la prise en charge des enfants rapatriés d'Irak et de Syrie. Je vais d'abord vous demander tout simplement de réagir à la situation de ces jeunes Français enfermés dans des centres de réhabilitation. Comment est-ce que vous la qualifiez ?
En fait, en écoutant le reportage, je retrouve des éléments que nous avons mis en évidence lors de notre enquête. Et les questions ont été redites par différents personnages qui intervenaient, autant les adolescents que par exemple le directeur de camp. La première chose qui m'a frappé, c'est la question... est-ce que ce sont des victimes ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va placer ces adolescents et ces enfants dans la place de victimes ou dans la place d'auteurs présumés dangereux ? Et on a retrouvé une dialectique constante du point de vue des pouvoirs publics entre mettre l'accent sur le côté de la sécurité et l'autre sur le bien-être de l'enfant. Et en fait, ce qui a été choisi, c'est d'abord le bien-être de l'enfant en ayant toujours en tête la sécurité. Et là, on trouve plein de choses qui sont présentes. La violence, omniprésente, mais elle est omniprésente, elle est au sein des familles, elle est à l'extérieur, elle est dans le camp, elle est multiple. La dangerosité pour les femmes, des adolescents qui grandissent. Donc on trouve ces problématiques, on trouve la problématique des mères qui pour nous est essentielle et en même temps très difficile à aborder. Parce que ce qui nous a semblé, c'est que les mères jouent un rôle extrêmement important, c'est elles qui transmettent l'idéologie. Elles le font pas, mais c'est elles les gardiennes, c'est elles qui élevaient des enfants pour devenir des soldats du califat. Et en même temps, un attachement extraordinaire des enfants à leur mère, et qui se détache un peu à l'adolescence, quand ils commencent à penser. Parce que ces mères ont élevé leurs enfants de telle façon qu'ils leur sont extrêmement attachés, mais en même temps leur ont fait prendre des risques énormes, et d'ailleurs un certain nombre d'enfants sont morts. Donc je vois dans ce que vous décrivez un choix que doit faire chaque État. Et il ne faut pas oublier que Daesh voulait un État. Et la France, et je crois que c'est ce qu'a dit le dernier intervenant, est un État de droit. Et c'est ça qui a été proposé et le choix qui a été fait. Et on voit que dans les camps, c'est très difficile de maintenir un État de droit, d'où la question du rapatriement des enfants.
Alors justement, Gaël Joly, qu'est-ce qui empêche vraiment d'organiser le retour de ces jeunes enfants ? Parce que de fait, les adolescents sont d'ores et déjà séparés de leur mère, pourquoi ne pas pouvoir les rapatrier ?
Alors même les juges pour enfants que j'ai contactés ici à Paris se posent la question, pourquoi ne pas les rapatrier ? C'est totalement incompréhensible, d'autant qu'il y en a un parmi eux, sa famille est rentrée et lui a été abandonné, Youssef, dans le camp d'Orkesh. Les autorités françaises disent que c'est quand même un territoire très compliqué, hein, instable, et donc il faut des mois et des mois pour organiser des rapatriements. Alors il y a une avocate, Marie Dosé, qui propose, hein, qui est l'avocate de certaines de ces familles, qui propose de les mettre à la frontière avec l'Irak et de les faire passer en Irak, où là on a une représentation consulaire et ce serait plus facile de les rapatrier. Elle attend la réponse, elle attend le nouveau gouvernement et le nouveau patron du Quai d'Orsay pour en parler.
Jacques Dayan, vous avez souligné la place majeure de la mère. Sur cette question de la séparation d'avec la mère, qu'est-ce qu'on sait de l'ampleur du traumatisme qu'il représente dans l'ensemble de l'équation de ces enfants ?
C'est une question très importante auquel on ne répond pas clairement, mais grosso modo... La séparation d'avec la mère entraîne une souffrance majeure, indiscutable. Mais après, une fois la séparation faite, on s'aperçoit que la relation de l'enfant à sa mère est extrêmement ambiguë. On peut avoir des enfants qui à la fois demandent à voir leur mère, quand ils en sont séparés, et quand, après l'avoir vue, urinent, font des cauchemars, disent qu'ils veulent plus la revoir, etc. Donc ils sont pris dans un maelstrom émotionnel qui est pas si simple. Et l'autre chose, enfin au moins deux autres points, un, c'est les mères qui se présentent toujours comme des puits d'amour insondables, mais en fait, qui ont quand même emmené leur enfant sur des terrains où ils mouraient.
Qui les ont mis en danger.
Et autant, on a vu des mères extrêmement inquiètes de souffrances physiques de leur enfant, qui pouvaient revenir en France uniquement pour les soigner. alors même qu'elles étaient totalement dans le déni des souffrances psychiques, des morts, il n'y a pas eu de bombardement, non, c'est pas vrai. Enfin, un déni absolument complet. Donc, du point de vue des mères, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, à chaque fois, pour chacun individuel, les services sociaux, l'ASE, la PJJ, les psychologues, les psychiatres, etc., réfléchissent à comment faire renouer ou pas renouer, ou être en garde ou pas en garde, ou faire appel à un autre bout de la famille, parce que la mère est restée une djihadiste absolument persuadée de la justesse de ses propos, ou hésite, ou alors... Donc, en fait, les mères, c'est une question émotionnelle qu'on peut mettre en avant, mais en fait, il n'y a pas que l'émotion, et même l'émotion, si on la discute, on voit qu'elle est complexe. Donc, il y a quelque chose qui est, en général, pas soulevé par le versant humanitaire de l'opinion qui dit qu'il faut pas séparer les enfants de leur mère. Mais en fait, la question est bien plus complexe.
Et il y a le deuil des pères. La plupart des pères, en fait, ont disparu ou sont morts.
Alors, il y a pas mal de pères qui sont morts, mais il y a pas mal de mères qui sont mortes aussi. Des mères qui sont mortes sous les bombardements, essentiellement. Qui sont mortes aussi, dit-on, de tuberculose. Alors, la tuberculose a été évoquée. Et effectivement, des pères. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand les mères racontent leurs souffrances, c'est exceptionnel qu'elles parlent en tant que souffrance de la perte de leur mari. Et les enfants, c'est aussi bien rare. Donc on a aussi une interrogation sur ces rôles de père. Mais ce qui reste important à souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins. Oui. Orphelins de père en premier, mais aussi des orphelins de mère. Oui. Et que ça fait partie aussi de la prise en charge.
Alors, vous évoquez la dualité, sécurité d'une part, bien-être de l'enfant de l'autre. Ces jeunes peuvent-ils être considérés comme un danger pour la France?
Alors, à ce stade, non. À ce stade, non. Mais comme a dit le magistrat, on ne peut pas deviner ce que fera la vie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre un maximum de garanties. Et les garanties qu'on essaie de prendre, c'est en fait l'inclusion de l'enfant dans un monde de valeurs différents, qu'est le monde finalement de la France. Et tous les comportements, que ce soit des familles d'accueil, que ce soit de la justice elle-même, sont axés vers cette intégration à des valeurs différentes. Et on le trouve dans la dynamique des familles d'accueil, dont je vous dirai un mot éventuellement. Mais en fait, ce qui va, entre guillemets, être l'élément sécure le plus fort, c'est l'intégration aux valeurs françaises. Mais pas par la déradicalisation, uniquement par l'affection qui est donnée, l'intérêt qui est pris, les soins psychothérapiques, etc., etc.
Donc c'est pas un déconditionnement de jeunes imprégnés de l'idéologie de l'État islamique, c'est au quotidien de la tendresse, des règles, l'école aussi.
Un peu comme un enfant qui vivrait dans une famille maltraitante et carencée qu'on reprendrait en charge. Parce que faut pas oublier que nous, dans notre étude, parce qu'on avait environ un quart des enfants rapatriés dans notre étude, et il y avait dans 50% des familles déjà de la violence, comme il a été dit dans le cas. Donc il y avait déjà des familles dysfonctionnantes. Donc on a aussi cette image-là. Et donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et par exemple, à Bobigny, puisque Bobigny et Versailles étaient les deux lieux d'accueil les plus importants liés aux aéroports, par exemple, pour Bobigny, il y avait beaucoup de familles d'accueil musulmanes. Et ces familles d'accueil musulmanes, finalement, devenaient un objet d'intérêt terrible pour les jeunes enfants, parce qu'ils disaient « mais toi aussi t'es musulmane, mais tu fais pas du tout pareil ». Et donc, en fait, il y avait rien à dire. Elle disait pas que c'était mieux. Elle disait qu'ici, c'est comme ça. Ou alors des fois, c'est le bon islam, le mauvais islam. Mais il n'y avait pas du tout de rééducation. C'était dans le plus quotidien de la nourriture, de comment on parle à ses sœurs, etc., etc. Et c'était ça. La modalité thérapeutique, c'est ça. Mais c'est un peu ce qu'il y a eu, d'une certaine façon, après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. C'est-à-dire on n'a pas rééduqué tous les enfants, simplement la démocratie est venue s'installer. Et leurs valeurs se sont infléchies.
Alors, quelquefois, pour protéger les enfants, on a tendance à vouloir passer sous silence certaines choses de leur histoire. C'est pas la bonne méthode.
Alors là, c'est très compliqué parce que c'est pas simplement pour protéger l'enfant, c'est parce qu'on a peur, soi-même, de parler. On sait pas qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on doit dire, jusqu'où on doit parler, sachant que la plupart des mères, pas toutes, sont dans le déni de ce qui s'est passé. Et même celles qui sont pas dans le déni, c'est trop dur pour en parler. Donc en fait, on n'en parle pas. Les familles d'accueil n'en parlent pas non plus. Et par exemple, des fois, il y a des surprises parce que les familles d'accueil se sont occupées d'un enfant. Et puis, ils ont des contacts directs ou indirects avec la mère, par exemple, au parloir, où ils ont su ce qui s'est passé. Ils avaient une image aimante, d'une mère aimante. Et en fait, elle est probablement aimante. Mais ils ont assisté au procès. Et au procès, c'était terrible. C'est une propagandiste, etc. Avec des... Donc, il y a une complexité vraiment grande dans laquelle... Et pour laquelle on a fait travailler ensemble des tas de services qui travaillent jamais de façon aussi liée. C'est-à-dire la préfecture, d'une certaine façon les renseignements généraux, même si on les voit pas, ça s'appelle plus comme ça, l'aide sociale à l'enfance, la psychiatrie, la protection. Donc finalement, on a embauché pour ces enfants énormément d'institutions pour être le meilleur garant d'une évolution positive.
Des institutions qui arrivent à dialoguer les unes avec les autres.
Oui, avec grand étonnement. Oui. Parce que dialoguer, déjà, ça existait. Mais un dialogue riche, un dialogue respectueux. Oui. Par exemple, dans un endroit que je citerai pas, j'ai entendu parler... enfin, prendre la parole brièvement, un magnifique psychologue. Et en fait, c'était quelqu'un de la préfecture. C'est-à-dire que donc, on peut avoir des intérêts, des ouvertures d'esprit.
Et du partage d'expérience.
Et du partage.
Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait qu'au bout du compte, on arrive à une prise en charge adaptée à la singularité de ces expériences.
Alors, on essaye. L'élément central, d'abord, de la psychologie de ces enfants, c'est le trauma. On est passé par la notion de trauma, qui est fait d'intrusions psychiques, de répétitions, de troubles du sommeil, de volonté justement d'éviter de rappeler tout ce qui est lié au trauma. Et en fait, ça nous permet, et ça permet aux institutions de prendre en charge les enfants, cette espèce de focalisation. Mais le trauma peut aussi entraîner une incompréhension de la part du public. Par exemple, un des éléments traumatiques chez l'enfant, c'est le jeu pathologique et la répétition du jeu pathologique. Alors, si par exemple il s'amuse à découper des poupées de papier, à les décapiter, si c'est à l'école, les gens disent oh là là, il est pris dans. En fait, il est pris dans le jeu pathologique du trauma, ce qui est vraiment, ce qui a rien à voir. Mais donc il y a aussi une éducation du public, donc il faut passer à l'éducation nationale, leur expliquer ce qui se passe. Ça s'appelle les réminiscences traumatiques, qui par exemple, chez un enfant qui allait bien, sont ramenés par la visite à la mère. Sachant quand même qu'il y a des enfants qui sont chez leur mère et dont on connaît pas forcément très bien l'évolution. Donc, voilà un peu la complexité. Le dernier élément, là, par rapport à votre question, c'est la notion de développement qu'on a bien vu dans le reportage. C'est-à-dire, il y a une date limite au grand changement dans la vie de ce qu'on est. C'est-à-dire, il dit, je peux pas attendre toute ma vie. C'est, à un moment donné, c'est trop tard. Alors, et là, c'est l'inverse. C'est l'idée qu'on peut se développer et se transformer dans le développement qui fait qu'on peut accueillir les enfants relativement tôt et que c'est un meilleur garant de cette possible ouverture d'esprit, transformation, adhésion, de façon complémentaire ou même des fois conflictuelle à d'autres valeurs.
Mais donc justement, si les jeunes que l'on a entendus dans le reportage de Gaëlle pouvaient rentrer demain, au-delà de ce temps de vie qu'ils ont déjà perdu, est-ce que leur prise en charge serait particulièrement complexe? Est-ce qu'ils ont un handicap du fait de leur âge?
Alors, je pense qu'il faudrait réinventer quelque chose. C'est-à-dire, parce que justement, du fait que la France, pour certaines familles, s'est décidée tardivement à les prendre, pour des raisons discutées, discutables, peut-être valables, je ne sais pas, c'est pas notre rôle d'intervenir là, mais en tout cas, ils sont âgés. Et donc, en fait, il faut se baser sur les processus de transformation. Pour le psy, je parle pas pour ce que fait le magistrat ou autre, hein. C'est-à-dire ce qui est encore mobile. Et nous, on considère que... Enfin, nous, c'est nous neuroscientifiques ou psychiatres de l'adolescence que jusqu'à 25 ans, il existe une capacité de transformation, de mobilisation qui existe. Qui après, on a vraiment des adultes qui se sont établis. Enfin, chacun peut changer dans la vie, vous et moi, mais quand même moins. Et là, oui, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il faut être inventif d'autres méthodes.
Quand on a vu de près la violence de Daesh, quand on a subi celle des camps et des prisons, quand on a un père disparu au combat du mauvais côté, entre guillemets, est-ce qu'on peut, même avec le meilleur accompagnement du monde, espérer avoir un jour une vie normale?
C'est-à-dire, on a même en France des femmes qui traversent les pays, qui arrivent sur des bateaux, elles auront une vie normale, mais une vie normale avec des éléments traumatiques dans leur personnalité.
Donc des séquelles.
Alors des fois, c'est des séquelles quand ça devient une pathologie. Des fois, c'est des traces d'une autre existence qui font partie d'elle. Donc effectivement, on peut même avoir des femmes qui sont malades mentales, une petite minorité, et qui s'en tireront pas. Mais grosso modo, oui, les gens s'en tirent.
Gaëlle Joly a interrogé le procureur antiterroriste Olivier Christen sur les 364 enfants suivis en France. Il a déclaré aujourd'hui que ces enfants-là ne posent aucune difficulté particulière. Vous le confirmez ?
J'ai pas entendu la fonction du monsieur, c'était magistrat ou...
Procureur.
Oui, bah, du point de vue de la loi, il ne pose aucune difficulté. Et donc c'est rassurant quand même, c'est extrêmement rassurant. Du point de vue du psychologue et du psychiatre, il pose que des difficultés, mais pas des difficultés parce qu'il est très malade, des difficultés parce que c'est une pathologie un peu nouvelle auquel on doit s'adapter et pour lequel peuvent se créer des centres, pas spécialement pour eux, mais par exemple à Versailles, il y a un centre de psychotrauma qui s'est créé, ou ailleurs il y a des spécialisations sur le trauma, mais des difficultés plutôt intellectuelles de prise en charge et, comme soulignait un autre magistrat, de personnel. Puisqu'il y a quand même beaucoup de personnel qui travaille autour de ces enfants, plus que pour d'autres enfants en difficulté.
Et donc vous, le rapport que vous avez fait, cet arrêté en 2022, vous aimeriez pouvoir poursuivre ce travail d'étude ? C'est important de faire des recherches ?
Ça nous semble extrêmement important. C'est une histoire rare, c'est l'histoire d'une migration de Français pour fonder un autre pays. On connaît pas ça dans l'histoire de France. C'est une violence extrême et qui aussi se diffuse dans le pays où ils reviennent. Parce que maintenant, les gens sont rassurés. Mais au début, quand les enfants sont arrivés, ils avaient peur. Le personnel avait peur. Donc oui, bien sûr, il est très important que ça puisse être continué et on espère être subventionné pour prolonger ces études.
Merci Jacques Dayan. Le grand reportage « En Syrie, des adolescents français grandissent en prison » était signé Gaëlle Joly et réalisé par Annie Brault. Et François Saint-Jour était à la technique. Documentation Christine Anzano et Véronique Lefaller et au web Caroline Beneteau. Vous pouvez réécouter et partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.